Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
RFI, grand reportage.
Sur une petite île comme celle-là, qui est éloignée, marginalisée et oubliée par les administrations centrales, des Canaries et de l'État, c'était enthousiasmant de parier sur une autosuffisance énergétique pour approvisionner la population et pour dessaler de l'eau.
Cette île, c'est El Hierro, l'une des plus petites de l'archipel espagnol des Canaries au large des côtes africaines. Cette terre volcanique, peuplée d'environ 10 000 habitants, multiplie les projets environnementaux. Son objectif, être une île à l'énergie 100% renouvelable, recycler 100% de ses déchets et permettre un développement de l'île respectueux de l'environnement et des traditions. El Hierro, dompter la nature pour la préserver, un grand reportage de Paul Inglaise.
Ce parc est relié à la centrale par des câbles électriques qui vont jusqu'à la partie basse. Pour voir le réservoir de la partie haute, on doit continuer à monter.
Sous l'une des 5 grandes éoliennes installées sur des collines arides avec vue sur mer, Thomas Padrón, ancien président du Cabildo, du canton d'El Hierro, peut désormais savourer le fruit de près de 30 ans d'efforts. Des efforts car en réalité il s'agit d'une centrale hydroéolienne. Les éoliennes permettent de faire remonter de l'eau en circuit fermé d'un réservoir bas vers un réservoir haut.
Voilà le dépôt situé en haut. L'eau qui vient d'en bas est stockée ici et là elle redescend.
Là, est-ce qu'elle est en train de descendre ou de monter ?
Ahora está subiendo y bajando porque hay viento y estamos penetrando en la red.
En ce moment, cela monte et descend car il y a du vent et l'énergie va dans le réseau grâce aux deux systèmes.
Pourquoi se servir de l'énergie éolienne pour faire remonter de l'eau et refabriquer de l'énergie plutôt que de mettre toute l'énergie éolienne directement dans le système ?
L'électricité du vent en la red.
Il n'est pas possible de faire entrer l'énergie du vent toute seule dans le réseau, car le vent est variable. Il n'y a pas de pression constante. Il lui faut un partenaire de danse qui le synchronise au système. Dans d'autres endroits, le vent est contrôlé par des centrales thermiques ou nucléaires, ou d'autres types d'énergie. Si on le laissait seul, cela ferait chuter le système. Il n'y a pas de garantie d'une fréquence constante.
Il n'a pas seulement fallu que les partenaires de danse s'accordent, il a aussi fallu que la nouvelle chorégraphie plaise, un travail de longue haleine.
Le projet est né il y a une quarantaine d'années à l'initiative de l'entreprise électrique qui opérait aux Canaries, une entreprise dont j'étais le délégué sur El Hierro. À cette époque, les énergies alternatives n'avaient aucun poids dans la société. Et le projet est né sur une petite île où produire de l'électricité avec du pétrole coûtait très cher. Au bout de 4 ans, l'entreprise a mis ce projet dans un carton faute d'argent. À ce moment, c'est le Cabildo, dont j'étais déjà président depuis 1979, qui prend en charge le projet. A alors commencé un long parcours au sein des institutions publiques pour chercher des soutiens et des financements. Et en 2000, on a pu aller à Bruxelles et s'entretenir avec la commissaire aux énergies, qui a vu d'un bon œil le projet. À partir de là, le projet a avancé. Toutes les portes qui auparavant étaient fermées en Espagne se sont ouvertes. Et puis c'est un projet nouveau, une innovation technologique vers laquelle nous avancions, avec en tête une idée de ce que l'on voulait, mais nous avions alors des difficultés de développement technologique. C'est pour cela qu'il a fallu autant de temps.
Les Ereños ne sont pas encore arrivés au bout du chemin. L'île de fer n'est pas encore 100% renouvelable, comme le veut le slogan. Au premier semestre 2021, 48% de l'électricité aurait été verte, avec des périodes de meilleure pénétration dans le système. Thomas Padrón nous montre sur son téléphone portable les performances en temps réel.
En ce moment, en renouvelable, entre l'eau qui est bleue et le vert, il y a 70%. Donc El Hierro est approvisionné en ce moment par 70% de renouvelables et le reste c'est du pétrole. C'est bien, mais notre objectif c'est 100% renouvelable en permanence. Et pour cela, il faut une seconde phase du projet. Jusqu'à présent, notre record est d'avoir été 100% renouvelable pendant 25 jours.
El record máximo hasta ahora ha sido 25 días.
Cette prochaine étape, Corona del Viento, l'entreprise qui gère la centrale y travaille. Direction leur bureau dans le chef-lieu d'El Hierro, Valverde.
Ese se llama Central Llano Blanco.
Sur un grand tableau représentant les infrastructures électriques de l'île, Santiago Miguel González, ingénieur et conseiller délégué de Corona del Viento, dessine avec le doigt une croix sur l'emplacement de la centrale thermique diesel.
Ce qui est certain, c'est que lorsque l'on n'a pas de vent, nous avons besoin d'autres capteurs d'énergie renouvelable pour co-générer de l'électricité avec de l'eau, du vent et... en ce qui nous concernera a priori, le soleil va co-générer de l'électricité donc avec les trois sources.
Est-ce que ça permettra avec le solaire d'arriver au 100% toute l'année ?
Non, on n'arrivera pas à 100% d'électricité avec le solaire en raison de la méthode que nous utiliserons. Tout est expérimental. On va co-générer trois énergies qui n'avaient jamais été co-générées. L'une avec l'autre, ça existe. Celle-ci avec celle-là, ils l'ont fait exister. C'est Corona. Ce qui vient maintenant, on va le faire exister. Avec un site solaire près de la centrale hydroéolienne, on peut gagner 18% de plus. Avec certaines actions, on peut avoir un peu plus. Il faut jouer avec ça pour réussir à s'approcher des 80%. On continue d'expérimenter aussi l'idée d'utiliser la force marine. Il y a beaucoup de choses à voir, mais cela va lentement, aussi lentement que le premier projet. Les gens, très optimistes, et je suis optimiste, on parle d'un plan à horizon 5 à 8 ans, de manière progressive. Ça ne fait pas... et tout est mis en œuvre. En même temps, ça c'est impossible, il faut jouer avec chacune des énergies.
Est-ce que vous conseillez d'autres îles ou d'autres lieux ?
Toutes les régions ultra-périphériques viennent observer. L'un de nos projets, c'est d'ailleurs que l'île soit un laboratoire à échelle réelle.
Au-delà de l'impact environnemental, quel bénéfice cette énergie locale a-t-elle pour les Ereños ? Le gouvernement insulaire, le Cabildo, détient les deux tiers de Corona del Viento. Alpidio Armas, président du Cabildo, défend l'utilisation des fonds qui proviennent de la centrale.
Cela ne se répercute pas sur la facture d'électricité car les lois nationales l'interdisent. Le prix est fixé par le gouvernement de l'État et nous ne pouvons ni le baisser ni l'augmenter. Mais notre part de bénéfice nous permet de financer des politiques insulaires. Par exemple, nous fournissons gratuitement de l'énergie à tous les véhicules électriques de l'île. Il y en a moins que ce que l'on voudrait, bien sûr. Notre intention avec les bénéfices de Corona également, c'est d'aider les gens à opter pour un véhicule électrique. Pour l'instant, il y a environ 15 bornes de recharge, mais dans l'année qui vient, nous en mettrons 8 ou 10 de plus. Une autre de nos politiques est liée à l'éducation. Nous avons permis à nos élèves de partir à l'étranger pour étudier les langues. Mais il faut aussi que l'on garde une partie de l'argent pour assurer l'avenir de Corona del Viento.
Après 7 ans de fonctionnement, si certains Ereños sont fiers, d'autres affichent une certaine déception. À l'autre bout de l'île, dans la petite station balnéaire de la Restinga, Santiago Alvarez, 81 ans, prend l'air avec d'autres retraités.
Je pensais que l'électricité serait presque offerte aux Ereños et elle est de plus en plus chère. Alors pourquoi on a dépensé tous ces millions ? L'électricité, c'est l'une des dépenses les plus importantes aujourd'hui, et nous l'avons ici. Ils disent que c'est pour qu'il n'y ait pas de pollution, mais ici, à El Hierro, ce n'est pas pollué. Ils disent ça juste pour esquiver.
Depuis son enfance, El Hierro a tout de même changé, et en bien, assure Santiago Alvarez, notamment ce qui concerne l'approvisionnement en eau.
Maintenant, on a de l'eau ici, alors qu'avant, l'inconvénient, c'est qu'on n'avait pas d'eau, même pas pour boire. Et maintenant, on a l'usine de désalinisation ici. Il y a de l'eau pour les gens, pour l'irrigation, et juste là, on a une douche sur la plage de la Restinga. Qui aurait dit ça il y a 50 ans ? Avant, nous n'avions même pas de toilette, pas d'eau pour prendre une douche.
À ses côtés, sous le préau, Francisco Morin, dit Pancho, se souvient aussi du manque d'eau.
Cela représentait beaucoup de travail d'apporter l'eau de la plage douce pour la consommer ici. Quand j'avais 12 ans, avec mes frères et mon père, on allait à la plage douce, où plus tard, ils ont ouvert une galerie. Il y avait une résurgence d'eau douce. Il fallait y aller à marée basse, car à marée haute, elle se mélangeait avec l'eau salée. Mais à marée basse, il y avait la source qui venait d'en bas, et on remplissait des bidons que l'on transportait sur notre bateau.
« Aujourd'hui, fini ces corvées d'eau. Direction la frontera de l'autre côté de l'île. À l'entrée d'une petite maison blanche, des Erenios viennent remplir des bouteilles et bonbonnes. Cette eau est selon eux l'une des meilleures du département. La maison blanche abrite le puits de Los Padrones. À l'intérieur, au-dessus de l'entrée de la fosse, trône une image de la Virgen de los Reyes, la Vierge des Rois.
Pour un Erenio, même s'il est athée, il ne faut pas toucher à la Virgen de los Reyes. C'est une icône de l'île. C'est la Vierge de l'eau. Il y a eu une immense sécheresse et le bétail mourait. Ils ont amené en pèlerinage la Vierge à Valverde en lui demandant de faire pleuvoir et en théorie, il a plu.
Le miracle des temps modernes, c'est en partie l'électricité. Elle permet par exemple d'extraire l'eau de ce puits un peu particulier contrôlé par Andrés Alvarez, assistant technique pour les ressources hydrauliques.
Là, on est donc à 55 mètres du sol. Il y a aussi une nacelle.
Ves el reflejo? Vale, ahí está el fondo.
Vous voyez le reflet, c'est le fond. Mais là, il n'y a pas d'eau. Il y a une galerie de 1000 et quelques mètres qui va vers la falaise. Et c'est là que l'on prend l'eau. Vous voyez le dessin du puits? Ce sont des cheminées du volcan, ce sont des barrages naturels. Ce que l'homme a fait, c'est de creuser le puits que l'on vient de voir et une galerie qui est allée casser les barrages pour prendre l'eau qui s'y était accumulée.
Pour ne pas épuiser les ressources en eau, El Hierro dessale de l'eau de mer. En nous rendant avec Andrés Alvarez dans l'usine de désalinisation toute proche, on longe des champs d'ananas et de bananiers sur un terrain qui était incultivable il y a encore quelques années. De la terre arable a été apportée et l'irrigation rendue possible. L'eau est dessalée par osmose inverse avec une mise sous pression et donc de l'électricité.
De mon point de vue, la Garoe du futur, c'est Corona del Viento. Si Corona del Viento produit plus d'énergie que les besoins de l'île, alors elle aura un excédent qui sera disponible pour dessaler de l'eau ou pour stocker de l'eau. Avec Corona del Viento, l'avantage, c'est que l'énergie pour dessaler n'est pas fossile. Et en plus, c'est en été qu'il y a le plus de vent alizé. Donc en hiver, on peut dépendre un peu plus de la pluie. Et en été, on aurait de l'eau car c'est le moment le plus venteux et ainsi avoir plus d'énergie éolienne.
Le garroé dont parle Andrés Alvarez, c'est un arbre sacré à El Hierro, un arbre fontaine. Dans le centre d'interprétation de la réserve de la biosphère d'El Hierro, Yurena Pérez Candelario, responsable de la réserve, en explique le fonctionnement.
L'arbre garroé capte la pluie horizontale qui arrive. En raison de l'altitude et de la situation géographique de l'île, les alizés apportent les nuages, le brouillard, et cela fait que cela se condense sur les feuilles de ces arbres. Et c'est de cette eau dont profite la population. Aujourd'hui, il y a des méthodes plus modernes, comme les filets à trappe brouillard, mais ça marche pareil.
L'arbre originel a été détruit pendant une tempête. Un autre a depuis été planté symboliquement. Ailleurs, des arbres similaires peuvent être repérés à la terre humide qui les entoure. Sur le chemin qui mène à l'arbre garroé, l'un d'entre eux alimente même un abreuvoir pour le bétail. Cela fait partie des curiosités de l'île, qui est donc entièrement classée réserve de la biosphère par l'UNESCO.
Une réserve de la biosphère, c'est un mode de vie que nous menons. C'est une alliance du territoire, de la population et de la manière avec laquelle la population utilise ce territoire pour son développement économique et de manière durable, évidemment. C'est époustouflant parce qu'avec tout juste 278 km² et moins de 10 000 habitants, presque 60% du territoire est protégé. On a beaucoup de projets environnementaux. Je crois que plusieurs choses ont joué. D'un côté, la situation géographique de l'île, ses caractéristiques. Elle a par exemple des caractéristiques géologiques très importantes. C'est pour ça que nous avons été classés en géoparc par l'UNESCO. Et puis d'un autre côté, la population avec sa vie traditionnelle artisanale a su maintenir son territoire de manière durable. Beaucoup de touristes viennent chercher ce qu'ils ne trouvent pas ailleurs, la tranquillité, et nous sommes fiers d'avoir un tourisme durable.
Es el Hierro una isla joven emergida del mar hace apenas un millón de años.
Dans le musée de la réserve de la biosphère, un espace est aussi dédié à Gorona del Viento. Et si l'île veut se passer de sa centrale au diesel, elle s'emploie à produire du biodiesel. C'est en partie le travail de Domingo Barrera que l'on retrouve avec Matteo Padron, moniteur d'éducation à l'environnement.
Toute la semaine, on fait le tour de l'île, une fois pour les bars et le reste pour les points de dépôt. Son travail, c'est de récupérer dans le fourgon que vous avez vu les bouchons et l'huile. Il entre dans la cuisine et emporte les bidons pleins. La loi nationale comme européenne interdit de déverser l'huile usagée dans la terre ou dans les canalisations. Sur d'autres territoires, des privés s'occupent de ça. Mais à El Hierro, c'est une gestion publique par le Cabildo qui a installé une usine de biodiesel. Avec ce biodiesel, on remplit nos machines, un tracteur, une mini-pelle, un chariot élévateur, un camion.
Les bidons d'huile du bar-restaurant emportés, le fourgon fait un arrêt à un point de collecte de tri sélectif.
Le sac de vieux habits, c'est ce qui a été récupéré dans un conteneur de rue, car avec ce fourgon, on gère les deux services. Alors là, c'est le conteneur orange où les gens laissent leurs bouteilles d'huile. Normalement, elle devrait être filtrée. Et tout ça, c'est de l'huile des citoyens.
Des citoyens qui, selon Matteo Padron, respectent plutôt bien le tri des huiles usagées. Mais l'île est-elle parvenue au 100% recyclable comme le revendique le logo sur le fourgon? Cela ressemble pour l'instant plus à une incantation qu'à une réalité.
Il est vrai qu'à l'heure actuelle, on doit beaucoup améliorer le pourcentage de ce qui est trié. Les poubelles résiduelles, les déchets organiques représentent 60% de ce qui est généré dans une maison. Et ça, on l'envoie à la décharge. Or, l'Europe et l'Espagne interdiront à partir de 2023 d'envoyer des matières organiques à la décharge. Donc, il faut qu'on accélère pour réduire la quantité de matière organique et installer une usine à compost. Pour le reste, on est plus ou moins bon en fonction des matières.
Au nombre des projets environnementaux de l'île, la pêche figure en bonne place. Retour à la Restinga, les retraités prennent toujours l'air sous le préau, en face de la plage, près du petit port de pêche. Une pêche durable. Jesús Matin débarque à la grue des thons et des poissons locaux, gris ou rouges, avant d'aller les peser dans la halle.
On pêche du thon à la canne, mais aussi à la ligne, mais le tout à l'hameçon, un par un. Ce n'est pas difficile, c'est ce qu'on a toujours fait. Pour moi, c'est une fierté de faire de la pêche durable, car nous avons de plus en plus de ressources. Nous en avons pour les nouvelles générations, et nous pouvons vivre avec cette pêche durable.
Exit donc les filets et les nasses, même si l'on aperçoit sur quelques bateaux de fins filets. La règle, explique Fernando Gutiérrez, le président de la confrérie des pêcheurs d'El Hierro, c'est un homme, un hameçon.
On pêche seulement, majoritairement, à l'hameçon. Notre engagement pour une pêche durable est né car les méthodes que nous avions nous assuraient du pain aujourd'hui, mais la faim pour demain. On avait des filets, des nasses, des palangres, c'est-à-dire des grandes lignes avec plusieurs hameçons. C'était très productif, mais à long terme. Donc, quand on a vu que cela commençait à tourner au vinaigre, on a commencé à essayer de changer tout cela. Cela a été très difficile car les gens ne comprenaient pas. Avec la confrérie, on est donc parti de zéro. Et petit à petit, on a montré qu'on pouvait faire des choses pour les pêcheurs.
C'est une obligation?
C'est obligatoire. Il y en a toujours un qui fait quelque chose qu'il ne devrait pas faire, mais normalement, on pêche avec des méthodes durables.
Et l'enjeu ne se limite pas aux pêcheurs.
Le modèle que nous avons développé.
Avec ce modèle, on a aidé à ce qu'il y ait un tourisme de qualité à travers la plongée sous-marine. On a demandé la création d'une réserve marine. 7-8 000 personnes viennent plonger ici chaque année. Et donc, 90% du village vit directement ou indirectement de la mer.
La création d'un parc national entièrement marin est à l'étude.
El Hierro, dompter la nature pour la préserver. Un grand reportage de Paul Inglaise. Réalisation Pierre Chaffange.